de grands questionnements nous happent au 21e siècle quant à notre manière de se nourrir, de ce qui est bon ou mauvais, aussi avec ce qui est appuyé par la science maintenant. Et puis il y a des passions qui s'enflamment alors que les gens veulent choisir un camp, le camp de la viande ou du végétal. Il y en a même qui avancent qu'on est herbivore biologiquement. Et d'autres qui avancent en réponse que nous sommes omnivores depuis toujours. En tout ça, la gastronomie contemporaine a introduit toutes sortes de créations complexes, de bonbons, desserts sucrés, fast-food, pâtisseries fines. Est-ce qu'on ne se serait pas éloigné avec le temps de notre vérité diététique? À tout le moins, je pense que ça mérite une investigation pour départager le vrai du faux. Et puis ensuite, ça nous permet peut-être de construire sur la vérité et de trouver le juste milieu du régime pour une vie. Je suis Raphaël Gagné et vous êtes dans ma chambre d'écho. C'était The Radio Department avec la chanson intitulée Against the Tide de l'album Lesser Matters qui est sorti en 2003. Et je vous présente ici un style peut-être différent, ce shoegaze comme on le connaît, ce mur de son, les voix basses soufflées, les mélodies répétitives qui entraînent presque une transe. C'est calme, c'est jeune en esprit, c'est évocateur de tous les défis qui nous guettent. Le shoegaze tient son nom parce que ce style-là, en concert, lorsqu'il était joué live et lorsqu'il est joué live, le public baissait la tête et se laissait glisser dans cette mélodie et fermait les yeux et regardait un peu vers le bas. Donc shoegaze, si on fait la traduction, c'est ce regard constant vers le soulier. Donc je pense qu'en écoutant cette pièce-là, on comprend peut-être d'où le style vient. On a tendance à vouloir juste se laisser porter et ne pas... Les gens ne regardaient même pas ce qui se passait durant le concert. Et si je m'attarde un peu au texte de la chanson, The Radio Department nous dit peut-être qu'il faut bouger contre la marée. Il faut se tracer un chemin qui est intègre et beau parfois et aller contre la majorité. J'aurai peut-être l'occasion d'étaler mes pensées un jour sur la majorité, les effets néfastes du système qu'on a créé autour de ce contentement de la majorité. Mais pour le moment, contentons-nous de cette beauté et cette proposition adéquate, je crois, du groupe suédois. Alors voilà. avant de commencer, d'aller peut-être un peu plus loin dans ce qui a trait à l'alimentation, j'aimerais peut-être expliquer mes motifs qui me portent à m'attarder à ce sujet. Il me semble important d'apporter peut-être un peu de répartie et d'honnêteté dans ce monde qui est très subjectif et très de goût, très personnel. Et ce questionnement-là qui est de plus en plus vogue, alors qu'on avance et qu'on contrôle de plus en plus les éléments qui composent notre réalité, il y a certaines questions qui viennent avec ça, selon moi. Qu'est-ce qu'on fait des traditions antiques qui nous rattachent une identité précise? Est-ce qu'il faut transformer notre alimentation complètement parce qu'elle est plus adéquate? Est-ce qu'il faudrait peut-être pas retourner aux sources simples parce qu'on s'est perdu en route avec les sucreries, comme je l'ai dit, et les autres complexités grasses? Penser nourriture, pour moi, c'est respecter la source à laquelle on s'abreuve et c'est respecter aussi l'animal derrière ça. Et la nourriture, c'est ce qui nous carbure et c'est ce qui nous transforme constamment. Donc, personnellement, je crois qu'il faut mettre nos méninges à ce sujet-là pour se définir une identité autour et avec. Je commencerai avec peut-être un historique de l'homme et de son rapport à la nourriture pour voir d'où il vient. Quelle est cette identité naturelle de laquelle je parlais? À l'état naturel, lorsqu'on regarde le monde animal, on peut voir qu'il y a environ trois types de consommation. Il y a le type carnivore, il y a le type herbivore et omnivore. Et on sépare ces diètes animales-là en trois groupes, donc. Carnivore, c'est les mangeurs de viande, évidemment. Herbivore, les mangeurs de plantes et tout ce qui est au milieu de ça. Et les omnivores se nourrissent des deux, des viandes et des plantes. Nous descendons primitivement de singes arboricoles. Nos ancêtres, venant des arbres, se nourrissaient de fruits. Et sans aller trop en détail, le processus suivant est arrivé. Nous avons passé des arbres, nous sommes descendus à la plaine pour aller trouver plus de nourriture. Nous étions quadrupèdes à l'époque. Nous descendons des arbres. Nous en venons à devenir bipèdes parce que c'est plus simple de se transporter et de voir au loin sur deux jambes, plus endurant. Les millions d'années passent et nous voilà, nous sommes bipèdes. Nous ne sommes plus dans les arbres ni frugivores. J'aimerais rappeler que deux types de singes aujourd'hui sont frugivores. C'est un pour les grands singes et pour les singes, c'est une manière de se nourrir qui est archaïque, qui est dépassée. On a fait beaucoup de chemin donc. Mais l'être humain se trouve où parmi ces trois choix-là, carnivore, herbivore et omnivore? Laissez-moi vous rappeler que Homo erectus maîtrise le feu. C'est un de nos ancêtres, évidemment. Maîtrise le feu il y a 600 000 années. Et ça lui permet d'extirper plus facilement les calories de ce qu'il mange, de la viande et des légumes. Lorsqu'on les cuit, ça décomplexifie, ça permet une digestion plus facile, donc une absorption plus complète des nutriments à l'intérieur de la nourriture. Et plusieurs scientifiques et anthropologues pensent que c'est ce feu-là qui garantit chaleur, confort et cuisson, qui mène à un surdéveloppement du cerveau qui est mieux nourri et qui mène donc à nous avec un cranium extrêmement développé. Mais nous voilà donc Homo sapiens sapiens. Et vérifions notre physiologie et ce qu'elle nous dit, les traces qu'elle nous laisse quant à notre alimentation. Premièrement, on a canine et molaire. Donc, on a les dents pour déchiqueter la viande, les types de dents pour déchiqueter la viande, pardon, les canines, et celles pour broyer et mastiquer les feuilles, les molaires. On a un système digestif qui est de longueur moyenne. Lorsqu'on regarde les carnivores, ils ont un système digestif très court parce qu'ils ne mangent que de la viande et ils ne veulent pas que cette viande-là reste longtemps dans leur système digestif et pourrisse et vienne introduire dans leur corps des maladies ou des éléments néfastes et étrangers. Et comme je l'ai dit, notre système digestif n'est pas trop long non plus, il est moyen. Et lorsque le système digestif est long, on voit ça souvent chez les herbivores parce qu'ils mangent des éléments qui sont plus faibles en nutrition, on pense à de l'herbe ou etc. Et donc, ils font fermenter cette nourriture-là longtemps dans tout ce tract digestif long-là. Ça leur permet d'extirper le plus possible les nutriments de ces sources qu'ils mangent en plus grande quantité pour se nourrir. Et donc, nous, notre système est moyen. Donc, on a peut-être déjà là une piste. de ce qu'on est. On a une vision de loin aussi, qui est très bonne de loin pour chasser, pour voir de loin. On a la meilleure endurance du règne animal, qui est pour pourchasser aussi. Et on n'a pas de chambre de fermentation comme une vache ou un ruminant, qui sont évidemment herbivores, et qui leur permet, comme je le disais, encore plus de faire fermenter, de garder cette herbe-là, ce contenu ruminant-là pour extirper de plus grands nutriments. Donc on a déjà les signes peut-être d'un animal qui est opportunistique et qui est développé pour pouvoir se nourrir de tout et s'adapter aux conditions autour de lui. Regardons d'autres animaux proches de nous aussi et leurs vestiges de diète pour rajouter peut-être un panneau de plus à cette histoire-là. Parce qu'il est pertinent de regarder nos cousins les plus proches et de voir leurs tendances tout de même. Et les deux plus proches sont les gorilles et les chimpanzés. Et lorsqu'on regarde les gorilles, eux mangent principalement que des légumes, 97%. Ils sont reconnus comme des herbivores. Ils mangent environ 3% de larves et d'insectes. Les chimpanzés, eux, qui sont notre relatif le plus proche, évidemment, sont omnivores. Ils mangent principalement des fruits et des légumes, beaucoup de fruits, évidemment, mais chassent aussi pour de la viande, parfois. Il leur arrive même, un fait intéressant quand même, de s'entretuer, de se cannibaliser entre eux. Donc, qu'est-ce que ça nous indique sur nous, toutes ces informations-là? Eh bien, ça pointe peut-être vers la direction que nous sommes omnivores biologiquement, évidemment. Lorsqu'on s'attarde à la physiologie, c'est clair que l'être humain est adapté pour pouvoir se nourrir de tout et s'adapter de façon opportunistique, comme je l'ai dit. Il possède des dents pour déjeter la viande, des dents pour mastiquer la verdure, ses intestins sont ni trop longs, ni trop courts pour digérer viande et végétation. On peut cuire la viande aussi pour s'aider, mais l'être humain est tout aussi capable de digérer beaucoup de viande crue. Hein. Donc tout pointe vers la direction de l'omnivorisme que nous pratiquons majoritairement en Occident, pas partout sur la planète. Si on regarde en Asie, plus vers l'Est, on a une alimentation un peu plus végétarienne, mais ce qui a trait à l'Occident et à l'histoire générale de l'homme pointe aussi vers l'omnivorisme. Donc, nous sommes allés dans la direction, nous avons suivi la direction que nous a indiqué notre biologie depuis des millénaires. Et regardons donc cette biologie et ces besoins-là qu'on a de notre corps pour peut-être comprendre ce qu'on a besoin d'aller chercher de notre alimentation. Il y a des éléments essentiels qu'on a absolument besoin d'aller chercher, comme je l'ai dit. Il y a environ 50 éléments nutritifs qui sont essentiels à la bonne santé et survie de l'être humain à long terme. On peut diviser ça en plusieurs catégories, évidemment. Il y a l'eau, qui est absolument nécessaire. Il y a les vitamines, qu'on compte environ en 13 différentes vitamines. On parle, par exemple, des vitamines A, B, C, D. Il y en a plusieurs autres. Il y a les minéraux qu'on compte aussi avec un ordre de 13. On pense à fer, calcium, magnésium, sodium. Il y a aussi les acides aminés qu'on compte au nombre de 9, taurine, leucine, etc. Peut-être moins connus, mais tout aussi importants. Et les acides gras qui se comptent au nombre de 2. Il faut comprendre que de nouveaux éléments s'enlèvent ou se rajoutent selon le temps et les différentes listes. Hein. Je dis 50, mais bon, il y a certaines listes qui sont à 41, d'autres un peu plus hautes. 50 est une bonne moyenne, disons. Une carence ou un gros surplus dans chacun de ces éléments-là peut entraîner des problèmes de santé significatifs. Ces éléments-là, comme je l'ai dit, sont essentiels. Par exemple, la carence en vitamine D, la vitamine qu'on reçoit entre autres à travers le soleil et un petit peu dans quelques aliments, cette carence-là est très fréquente dans les pays nordiques, évidemment, parce que nos heures d'ensoleillement sont divisées. Mais cette carence-là est fortement reliée à la dépression. Donc, on voit que les carences sont très, très, très problématiques. Et même les surplus, pour donner un exemple, un surplus en zinc vient jouer dans le cerveau et faire mal vieillir le cerveau, donc c'est relié à l'Alzheimer, entre autres. Donc, autant la carence que le surplus problématique. Donc, il est important de trouver l'équilibre, donc, de tous ces éléments-là que nous avons besoin. Regardons aussi les calories. On parle souvent des calories. Quelles sont-elles? Quel est le rôle de la calorie, techniquement? Il faut voir que les calories sont utilisées et brûlées par le corps pour fournir de l'énergie. C'est donc la façon de calculer notre carburant et la valeur nutritive de carburant d'un élément, d'un aliment pardon, quelconque. Évidemment, ce nombre-là calorique qu'on a besoin par jour, parce qu'il y a un nombre déterminé qui est santé, donc, ça dépend de l'homme versus la femme, d'un ratio de grandeur de poids et de disposition biologique, entre autres. Et les calories en surplus se transforment la plupart du temps en lipides. Ça prend la forme de gras sous-cutané, sous la peau. Le nombre à consommer de calories, même s'il est quand même assez bien défini, il faut comprendre qu'il dépend encore aussi de l'activité physique quotidienne et de l'âge de l'individu. Plus on vieillit, moins on a besoin de calories, et plus on est actif, plus le nombre de calories qui est en moyenne de 2800 pour l'homme moyen de, disons, 20-30 d'années, 2200 pour la femme d'une vingtaine-trentaine d'années aussi, bien, lorsque ces individus-là sont extrêmement actifs ou très peu actifs, le nombre est très modulaire, peut aller beaucoup plus haut et un peu plus bas quand même. Regardons le sucre, qui est nécessaire à la vie, qui lui aussi est brûlé pour l'énergie et qui est utilisé par le cerveau en plus. Et c'est pas pour rien qu'on adore le sucre et tous les éléments sucrés. C'est un signe biologique pour nous. On a évolué pour l'adorer parce qu'il est signe de nourriture qui va nous propulser rapidement, qui est nutritive, entre parenthèses, naturellement nutritive. On a transformé l'utilisation du sucre en contrôlant nos aliments, en créant des aliments auxquels on injecte beaucoup de sucre. Mais dans la nature, les aliments sucrés sont souvent de très bons indicateurs d'aliments pertinents et utiles à manger. Évidemment, le sucre est terrible pour la santé en grande quantité, hein, toutefois. C'est surtout cette abondance de sucre-là en Occident qui cause la prise de poids énorme, et non le gras comme on pense. On y reviendra. Parlons justement de ce gras-là, qui est nécessaire. Il ne faut pas l'oublier. Ce gras-là, on en a absolument besoin. 10% de nos calories doivent provenir de gras environ, de matière grasse. La réalité occidentale, c'est qu'environ 35% de la diète moyenne est en gras. Donc, on est 3,5 fois au-dessus de ce qu'on devrait manger en termes de lipides. Les risques associés à cet usage de gras-là dépend parce qu'il y a les bons gras et les mauvais gras. On l'entend souvent. Départissons peut-être quels sont les bons et les mauvais gras. Il y a les gras saturés, pour commencer, qui sont les graisses animales. Donc, qui se retrouvent dans les viandes, dans les produits laitiers, mais aussi dans l'huile de palme et coco, qui sont liés aux problèmes de santé typiques. Mais on reviendra un peu plus tard. Il y a aussi le gras trans, qui est friture et qui provient des huiles végétales hydrogénées qu'on utilise pour frire, justement. Les gras trans sont les pires. Hein, lorsqu'on pense à des croustilles qui sont frites, bien, ce sont des gras trans. Parce qu'elles amènent un cholestérol élevé amène un cancer, maladie du cœur, etc. Et donc voilà les mauvais gras, les gras trans et les gras saturés. Il y a les gras mono-insaturés et les gras polyinsaturés, qui sont les deux types de bons gras. Les gras mono-insaturés sont les noix, les avocats, les huiles d'olive, de canola, d'arachide. Et les gras polyinsaturés, on pense aux poissons, au tofu, aux graines de sésame, citrouilles et à leurs dérivés. Et ces sources-là nous donnent aussi souvent de l'oméga-3 qui est excellent, on y reviendra. Les gras mono-insaturés et polyinsaturés réduisent les risques de problèmes de cœur, cholestérol, battements de cœur irréguliers, etc. Donc, il ne faut pas penser que le gras général est mauvais, il est nécessaire. Et les bons types sont excellents pour la santé et contrecarrent les plans des mauvais gras. Regardons les protéines maintenant qui sont évidemment aussi nécessaires. Les protéines sont absorbées par le corps sous forme d'acides aminés, comme je le disais. Donc, ces 9 types d'acides aminés-là qu'on a besoin proviennent des protéines. Et les acides aminés remplissent des tâches diverses, telles que la construction de muscles, d'anticorps, d'hémoglobine, qui transporte l'oxygène dans le sang, et composent de l'ADN. Donc, sont absolument nécessaires à notre maintien aussi, ces protéines-là, on en a besoin. Regardons les légumes et les fruits, maintenant regardons certains aliments pour voir ce qu'ils nous apportent. Les légumes et les fruits amènent les vitamines, les minéraux, beaucoup pour les légumes, des fibres et de l'eau. Et les fruits amènent beaucoup de vitamines et d'antioxydants qui combattent les maladies, cancers et qui jouent un rôle important dans le maintien d'une santé équilibrée, d'un système digestif qui est en santé. Beaucoup de légumes sont aussi excellents pour apporter de la protéine au corps. Il ne faut pas l'oublier, les pois chiches, les haricots, ce sont des aliments extrêmement complets. Et comme je l'ai dit, ce qu'on comprend, c'est que l'humain est fait pour manger ce qu'il rencontre. Il fait partie de ces animaux-là dominants qui peuvent organiquement se nourrir de plusieurs choses et les digérer. Donc, il peut aller chercher ses protéines dans les légumes et dans la viande, les sucres, dans plusieurs sources aussi. Et cet omnivorisme-là, c'est ça qui nous a permis de coloniser la planète, malgré les différences de température et donc des plantes comestibles disponibles différentes ou des animaux disponibles différents. On a su s'adapter malgré tout ça, grâce à cet omnivorisme. Pensons aux Inuits et à leur consommation de viande énorme dans le Nord, puisqu'il n'y a absolument rien qui pousse dans ces conditions-là, ou presque rien, et qui mangent du phoque et de la baleine à l'année longue, et qui peuvent survivre qu'avec pratiquement de la viande. Voilà peut-être cette utilité évolutive de l'omnivorisme. J'aimerais peut-être tuer ce mythe que la viande est absolument requise pour vivre. Les protéines disponibles, il y a des protéines disponibles ailleurs beaucoup, hein, comme je l'ai dit. Et la vitamine B12, qui est la vitamine que la viande est la seule à venir nous apporter, que les légumes n'ont pas, que les fruits n'ont pas, qui est une vitamine nécessaire. Même les mangeurs de viande sont en carence de cette vitamine B12. Et il est recommandé pour tous de prendre la vitamine B12 en supplément de toute façon. Donc, il n'y a pas de raison de manger cette viande. On le fait pour plusieurs raisons, on verra. Du même coup, j'aimerais aussi tuer le mythe de produits laitiers qui sont requis pour vivre. Le lait et l'allaitement dans le règne animal ne sont essentiels et ne servent qu'à la période de sevrage, hein, lorsque l'enfant passe de cet allaitement de se nourrir que de liquide à des aliments plus solides. Tous les éléments nutritifs du lait, que ce soit calcium, vitamine D, fer, etc., sont disponibles ailleurs, dans des éléments moins sucrés et gras. Il ne faut pas oublier que le lait est quand même très sucré. On le boit parce qu'il offre un package qui est efficace, qui n'est pas trop cher, mais qui est imparfait et qui nous force à abuser des vaches laitières. Évidemment, ça me porte à avoir quelques inquiétudes vis-à-vis de toute cette réalité-là. Et j'aimerais vous donner peut-être un contexte pour qu'on puisse comprendre aussi un peu plus loin cette réalité alimentaire-là. Lorsqu'on parle d'omnivorisme, de carnivorisme, d'herbivorisme, c'est des classifications purement humaines. Ça suggère aussi l'exclusivité alimentaire. Je parlais du gorille tout à l'heure qu'on parle ou qu'on nomme comme étant un herbivore, mais il mange aussi des larves un petit peu. Ça ne reflète pas la flexibilité requise pour survivre pendant des millénaires. L'animal va manger tout ce qui ne le tuera pas pour survivre en situation extrême. On pense aux chevreuils qui ont été observés en train de manger des oiseaux parfois, ou à des loups qui mangent des fruits. Ça reste très intéressant. Et avec le temps, on se rend compte qu'il y a une différence maintenant entre nos ancêtres et l'obligation qu'on avait de manger tout ce qu'on trouvait avant. Et l'abondance moderne, il y a un choix qui s'offre à nous maintenant. On est plus soumis aux pressions de l'environnement qui nous forçait de manger ce qu'on trouvait et de survivre avec le prochain poisson ou le prochain animal qui passe. Il faut absolument aller le chasser et on va se nourrir de ça pendant une semaine. On n'est plus dans cette réalité-là. Le surplus moderne nous offre un choix important, comme je le disais, quant à notre alimentation. On a ce pouvoir-là de supprimer et d'ajouter des aliments comme nous le souhaitons à notre diète. Ce monde développé-là nous permet une sélection directe, entre parenthèses, et prédictive de ce que l'on mange. Mais il y a un pouvoir qui vient avec cette liberté-là. Il faut restructurer et possiblement considérer fortement de limiter des aliments comme la viande qui causent des maux par rebond, et je les expliquerai. J'aimerais aussi parler du contexte mondial qui a perverti et qui va contre notre nature d'animal. On pense aux épiceries gigantesques d'aujourd'hui, au marché d'antan même, il y a plus longtemps. Tout ça a complètement transformé notre rapport avec la nourriture. On est devenus des acheteurs. Et c'est absurde et anormal d'acheter sa viande sous vide ou prendre des légumes réfrigérés sous glace et qu'on ne cueille pas d'une certaine façon. On le fait parce que c'est efficace et qu'on a d'autres choses à faire dans cette société capitaliste. Mais il faut comprendre qu'il y a un détachement, un éloignement de la vérité. L'animal, avant de devenir sous vide, il y a beaucoup d'étapes qui en viennent. Je pense que peut-être ça entraîne une perte d'identité, une perversion du caractère intègre et assez pur et passif, ou plutôt pacifique, de l'être humain. Il ne faut pas oublier non plus que la population augmente constamment dans ce contexte-là de nourriture. Peut-être que c'est moins palpable dans les pays développés qui tendent à stabiliser leur taux de natalité avec la richesse, évidemment, mais la population mondiale atteindra autour de 11 milliards en théorie avant de se stabiliser. Donc environ un autre 3 milliards là, de chemin à faire, c'est énorme. Parenthèse peut-être intéressante pour ceux qui veulent faire des recherches un peu plus poussées. Il y a un TED Talk de Hans Rosling sur justement la population qui croise, qui est en croissance, pardon, et comment combattre ça, et comment lui propose une manière de limiter cette croissance-là, avec la richesse répartie, évidemment. Et il en vient à la conclusion qu'il serait peut-être même possible d'arriver de stabiliser cette population à environ 9 milliards, et de ne pas aller plus haut que ça. Évidemment, avec le taux de mort et de natalité qui serait plutôt équivalent. Mais tout de même, dans le pire des cas, nous serons environ 11 milliards dans un quelque 50 à 100 ans. Et ça signifie une reconstruction nécessaire du marché de la viande, du poisson, des grains. Parce que ça deviendra de moins en moins possible pour l'environnement, déjà que c'est très peu possible, on le verra. Pensons aussi à la durabilité des choses, comme je le disais. Une des réponses aussi pour continuer à avoir accès à ces produits, c'est peut-être que le consommateur lui-même réduise drastiquement sa demande et sa consommation. Et c'est déjà une tendance qui survient, on sait que les gens tendent à réduire leur usage de viande et peut-être aller un peu plus vers le végétarisme. C'est certainement une réalité pour les plus jeunes, ceux qui ont 20-30 ans. C'est une vague qui est déjà en mouvement. Ce serait peut-être important de traiter la viande, le fromage, le lait, les produits laitiers, les produits animaliers, comme des produits de luxe et non des produits communs qu'on mange à chaque jour. Et ça forcerait l'industrie à se redéfinir, évidemment. Ça va forcer l'industrie à se redéfinir, à se rapetisser et à retourner peut-être vers le respect de la nature pour donner des produits plus de qualité et de luxe que le consommateur demande. Et ça laisserait peut-être place, une place plus grande à l'agriculture et aux serres pour des légumes et des fruits. Il y a aussi l'importance du parent dans ce contexte-là de l'alimentation, cette culture de l'alimentation-là qui commence en très bas âge. Cette culture du bien manger, la réduction de la consommation des viandes, de la malbouffe, commence comme tout par l'éducation parentale. Et c'est encore plus vrai que dans d'autres domaines, parce que les habitudes alimentaires qui nous sont inculquées ont tendance à nous suivre partout. On a tendance à les répliquer par après, par question de confort et d'habitude. On mange 2 à 3 fois par jour, c'est une habitude extrêmement courante. Donc une responsabilité cruciale, encore une fois, pour le parent à ce niveau-là, de proposer la variété et la diversité. Regardons peut-être l'argumentaire pro-viande, des produits animaliers pour le déconstruire et comprendre peut-être pourquoi la société est derrière, encore une fois, tout cet usage de la viande. On peut penser que l'être humain joue à Dieu pour défendre cette consommation de viande-là. On se dit que la bête n'aurait pas existé si ça n'avait pas été par le tact humain qui lui donne vie pour la manger. Mais j'ai peut-être l'impression qu'une bête maltraitée, qui ne peut pas bouger, qui a des contacts sociaux limités, ne devrait peut-être même pas exister. Il y a une responsabilité en tant que créateur et de donneur de vie, de justement donner des conditions dignes aux animaux, puisque nous sommes en position de pouvoir. Il faut avoir ce respect peut-être. Et ça donne de meilleurs résultats côté de produits, côté qualité. Il y en a déjà beaucoup qui ont compris ça, il faut le savoir. Le consommateur averti aussi, qui comprend cette réalité-là de la maltraitance des animaux, paiera plus cher et moins fréquemment pour encourager les initiatives honnêtes. On peut aussi penser que c'est correct que l'homme domine sur l'animal, qu'on le voit comme inférieur, puisqu'il est plus intelligent que le reste. Mais puisque l'homme est plus intelligent, Est-ce que ça veut nécessairement dire qu'il peut faire ce qu'il veut des bêtes inférieures? Ça me semble immoral, simpliste et pitoyable. C'est une exploitation mathématique et monétaire qui est trop facile pour un animal aussi intelligent que l'homme. Il faut arrêter de prendre les raccourcis d'argent et les raccourcis monnayables qui ont des conséquences néfastes. Évidemment, il y a le cycle de la vie qui est là depuis des centaines de milliers d'années. Hein. Le sacrifice et la mort amènent à la vie. Le règne animal fonctionne comme ça, certainement. Je peux pas aller contre ça. Mais on n'est peut-être pas dans l'obligation de le reproduire, ce cycle de vie-là animal, sans correction, ajustement. On peut peut-être mettre ce toucher humain intellectuel à ça et modeler cette réalité-là à notre façon. Il faut aussi rappeler qu'il y a beaucoup d'animaux omnivores qui mangent que de la viande de façon minoritaire. Hein. L'ours, les cochons bon, qui sont omnivores mangent majoritairement de la matière végétale. Et il y a aussi beaucoup d'animaux qui sont herbivores. Donc, le cycle de la vie, oui, mais peut-être pas à la puissance qu'on puisse y penser. Il y en a d'autres qui justifient cette consommation-là constante de la viande en pensant que les animaux ne se gêneraient pas pour nous manger, eux, si on était avec eux dans la savane, par exemple. Et ils se mangent déjà entre eux. Et comme je l'ai dit, il faut savoir s'élever des animaux qui agissent simplement par instinct tout le temps. Nous, on a un avantage ultime, cette conscience-là, il faut s'en servir. Il y a une responsabilité qui vient avec ça. Autant en tant que producteur que comme consommateur, c'est clair. Donc, il y en a qui disent que c'est naturel. Hein. Mais les meurtres et les viols sont de coutume aussi dans la nature. On est dans une classe qui se construit et qui construit sa nature propre. Bon, l'étiquette naturelle pour l'être humain n'a pas vraiment de signification parce que ce qui est naturel pour l'être humain, il le transforme, le fluidifie et sa nature est peut-être très différente de la nature d'âme nature. Mais il y a certainement des avantages techniques de la viande qui justifient cet usage-là. C'est pratique, c'est facile, c'est disponible, c'est simple à préparer, c'est rapide, comme je l'ai dit. Et c'est pas cher à cause du marché qui s'est structuré autour de tout ça. Et ce marché s'est structuré autour de tout ça parce que c'est autosuffisant, comme je le disais, c'est pratique. Une reproduction animale qui a un cycle constant qui permet justement au marché de s'organiser autour et de profiter de ça. Et la demande du marché est très forte. Donc, lorsque la demande est forte, l'offre vient à matcher cette demande-là pour augmenter le capital. Je l'ai dit un peu plus tôt, mais l'argument revient tout de même que c'est nécessaire à notre survie et à notre bien-être. Mais c'est faux, évidemment. La protéine végétale est équivalente, à part pour la vitamine B12, qui est essentielle à notre survie, comme je l'ai dit, qui est disponible que dans la viande rouge. Et dans la viande, mais on peut aller la chercher en capsule et en supplément et s'assurer de ne pas avoir de carence, car comme je l'ai dit, même les mangeurs de viande sont dans la carence de vitamine B12, qui est une vitamine très importante pour la synthétisation de nouvelles cellules et la synthétisation de ces cellules graisseuses aussi, évidemment. Il y en a qui justifient simplement par le goût, hein, parce que les produits sont absolument délicieux et n'ont pas de comparaison encore dans le monde végétal. Et je crois que c'est indiscutable, évidemment, en ce qui me concerne. Il y a très peu de créations végétaliennes disponibles qui peuvent rivaliser avec l'extrême variété et la profondeur des produits de la viande. Même s'il y a toutes ces initiatives-là qui tendent à synthétiser et à copier les produits de viande, c'est peut-être pas encore disponible partout et très, très, très développé, mais dans les années qui viennent, je suis certain qu'il va y avoir de belles opportunités pour le consommateur de trouver peut-être pas des équivalences, mais des produits qui permettent un peu de s'éloigner de la viande et d'avoir un substitut adéquat pour le goût. Donc, je pense que c'est difficile de penser en tant qu'être réfléchisseur, de penser que la viande disparaisse de toute la terre un jour, de toute la consommation. Je pense qu'il y aura toujours une petite part de la vraie viande, même dans le futur éloigné. Les êtres humains vont vouloir avoir ce produit à la source peut-être, ce produit naturel. Mais je pense qu'on peut certainement réduire cette consommation-là, peut-être pas la rayer, comme je le dis. Et j'ai d'autres peut-être réfutations techniques à apporter à cet argumentaire pro-viande-là. Explorons-en quelques-unes. Je pense que de en premier lieu, manger de l'animal, ça va plus loin que l'achat. Il faut comprendre le cycle qui va derrière et ce qu'on encourage avec notre argent. Il y a une tentative aussi en achetant tout le temps à l'épicerie, en achetant cette viande empaquetée qui est si loin de sa nature, et cette tentative de se distancer du meurtre qu'il y a derrière quand même. Et je mets meurtre, c'est peut-être un peu grave, mais bon, c'est pour représenter qu'il y a un kill, une tuerie entre parenthèses qui est faite derrière. Là, c'est pas, le terme n'est pas grave ni trop puissant. Il faut accepter qu'il y a une vie qui est prise à chaque fois qu'on mange de la viande. Et si on n'a pas abattu et vu l'animal mourir, on ne peut pas nécessairement bien piger et comprendre les enjeux et le geste derrière, je pense. La majorité des mangeurs de viande seraient incapables de tuer la bête, de la prêter pour ensuite la manger. Il y a une hypocrisie pour permettre la consommation, ça c'est clair. Évidemment, il y a tous les problèmes de santé liés à la viande et aux produits laitiers. Je parlais de ça pendant quelques temps à travers le gras. Revenons-y un peu. Cette diète-là de viande excessive est liée beaucoup au diabète de type 2, au cancer et aux problèmes cardiaques de façon forte. Et je le rappelle, le cancer et les problèmes cardiaques sont les deux plus gros tueurs au monde. Il y a aussi des problèmes digestifs, de l'hypertension, le cholestérol élevé. Problématique avec la protéine de viande, c'est qu'elle est très grasse en général, la protéine rouge en tant que telle, très grasse. Et lors de la digestion, les particules relâchées dans l'estomac font du dommage à long terme pour un consommateur constant. Les viandes transformées, on pense à saucisses, jambon, salami, etc., sont les pires, suivies des viandes rouges, bœuf et porc. Et lorsqu'on regarde la volaille, elle semble pas très bonne, mais plutôt neutre. Et le poisson, lui, combat lui-même les risques de cancer et est favorable, entre autres avec cet oméga-là et ce gras de qualité qu'il offre. Vous pensez aussi à la morale derrière la viande usinée, à ces abattoirs-là, à ces conditions de vie-là, la réalité qu'il y a derrière. On a des animaux apeurés, constamment en deuil, perdus, qui sont privés d'une connexion sociale avec le troupeau de façon significative. Ils sont très malades, hein? On les pompe d'antibiotiques pour les maintenir en vie jusqu'à temps qu'on puisse les récolter. Ils sont aussi privés d'une liberté de mouvement, surnourris par moments, sous-nourris par d'autres, mal nourris. Ils ne sont pas supposés manger du maïs à l'état naturel. On les gave de maïs et de soya. C'est pas une situation exceptionnelle, on s'entend. Et lorsqu'on est consommateur et qu'on achète cette viande-là de loin, qu'on ne connaît pas le geste qu'il y a derrière, il y a une déconnexion, je crois, avec l'animal qui se met en place. On oublie l'animal derrière la viande parce que le contact naturel est coupé. Et on se distance donc de la nature. On travaille plus directement avec la nature pour se nourrir. On se contente de se rendre à un endroit où on fait confiance aveuglément aux produits de masse. Et c'est peut-être pas le meilleur réflexe. Il y a aussi énormément de problèmes et d'impacts environnementaux avec cette culture de la viande-là. Comme je l'ai dit, l'agriculture de soya et de maïs pour nourrir les bêtes, c'est cette émission de méthane-là qui détruit la couche d'ozone et qui nous protège des rayons mortels du soleil. Les excréments sécrétés en quantité trop grande sont dompés dans l'environnement, détruisent les écosystèmes. Les hormones antibiotiques que nous pompons dans les bêtes finissent par s'écouler dans nos eaux, les polluants ainsi que les poissons qui s'y trouvent. C'est pas jojo comme constat. Et donc, on prend des territoires énormes pour faire l'agriculture de soya, de maïs, simplement pour nourrir des bêtes qui sont sur d'énormes territoires pour polluer. C'est un cycle qui est un peu bizarre, ça c'est clair. Et comme je l'ai dit, surtout pour l'industrie des viandes rouges, qui est la pire de toutes, qui est la plus vorace et destructrice pour l'environnement, parce que c'est ces bovins-là qui sont vraiment extrêmement mauvais et qui émissionnent le plus de méthane. Ce sont vraiment les pires, et en plus leur viande est la moins bonne pour la santé, mais on justifie tout ça par les points que j'ai nommés plus haut. Aux États-Unis seulement, 50% du territoire total du pays est utilisé pour l'élevage et ses découlements. 80% de l'usage total d'eau est fait pour soutenir ce marché-là, et 20% de l'usage des carburants fossiles, est utilisé aussi. C'est insoutenable à long terme, non seulement pour la planète, pour notre usage du territoire et des ressources que nous avons, qui sont limitées, évidemment. Il y a certainement aussi cette souffrance et cette torture-là qu'on fait subir aux animaux qui est peut-être pas nécessaire. La majorité des produits de viande bon marché sont obtenus et leur prix est justifié justement par ces méthodes faciles, rapides, barbares-là et froides qui n'ont pas de regard envers la qualité de vie de l'animal, qui pensent juste à la vente. Ça va à l'encontre du rôle d'apprivoiseur de la nature de l'homme, je crois, qui est supposé être en harmonie avec cette nature-là et cultiver, utiliser intelligemment de l'animal et du végétal. Et en bout de ligne, le pire, c'est que c'est le consommateur qui est moins chanceux parce que le produit final est moins bon. Et il paye pour, en plus, avec sa santé et avec son portefeuille. Jetons aussi un coup d'œil, rapidement, dernièrement, à l'industrie du lait et du veau par la bande. Une exploitation totale des vaches laitières, comme je le disais. Ne vivent qu'à quelques années, environ 4, alors qu'elles sont supposées vivre beaucoup plus longtemps que ça, alors qu'elles sont en permanence enceintes, ces vaches-là, pour qu'elles soient en lactation. Elles sont pompées de médicaments pour les maintenir et n'ont pratiquement aucun break pendant leur vie. Ils sont continuellement inséminés pour pouvoir produire ce lait. Et on leur donne ces médicaments-là pour les maintenir artificiellement debout devant une charge qui est irréelle du travail, tellement irréelle qu'elle coupe de nombreuses années de leur vie. Puis ensuite, lorsqu'elles accouchent de ce veau-là, puisqu'elles étaient enceintes pour produire le lait, elles finissent par accoucher du veau, on les sépare immédiatement. Et les veaux, on les amène dans des cages, dans des enclos, ils ne peuvent pas bouger, où ils sont sous-nourris et pris justement dans ces cages-là pour assurer qu'il n'y ait pas de mouvement. On veut une viande molle et qui est pâle lorsqu'on pense aux veaux, mais c'est pas naturel, c'est parce qu'on les sous-nourrit qu'ils ne bougent pas. Évidemment, il y a des moyens, je crois, de bien mener la récolte du lait et des viandes, mais ça doit se faire naturellement en respectant le rythme de l'animal et de la nature, qui n'est pas supposé être constamment en travail et enceinte dans le cas de la vache laitière. Le sacrifice à faire, c'est de vouloir qualité et non quantité. Non seulement pour le consommateur qui veut la quantité à pas cher pour une majorité, mais aussi pour ceux qui font l'offre. Examinons maintenant l'argumentaire pour peut-être le végétarisme / végétalisme. Donc on dit que c'est peut-être plus santé, évidemment. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une possibilité de ne pas être en santé avec toutes les diètes possibles. Hein. Si on est végétarien, qu'on mange trop de fruits, on mange trop de noix, trop de gras, on n'est pas en santé, là. C'est pas un gage de santé. Il faut regarder ce qu'on mange, évidemment. Mais il faut comprendre aussi que les gens qui vivent le plus vieux sur la planète sont tendance végétarienne, évidemment. Et en Amérique, 20% de la diète est composée de viande. Et on viendra sur ces chiffres-là pour peut-être ajuster et comprendre où est-ce que ce plafond-là de pourcentage devrait être. Évidemment, il n'y a pas de tuerie, il n'y a pas de meurtre. Hein. On ne s'attaque pas à des animaux qui ont un système nerveux, une intelligence et des besoins sociaux. On ne s'attaque pas à ça, évidemment. On s'attaque qu'à des plantes. C'est moins cher aussi, évidemment, de manger que des légumes, des fruits, des noix. C'est évident. La viande coûte très cher. Parce que, justement, à cause de tous ces processus-là qui sont derrière pour la justifier. C'est aussi meilleur pour l'environnement, selon cet argumentaire-là. Il ne faut pas oublier que c'est quand même mauvais pour l'environnement à l'échelle à laquelle la culture des fruits et des légumes est menée par les compagnies immenses. On est extrêmement nombreux sur cette planète-là, donc même si c'est meilleur pour l'environnement, c'est tout de même pas soutenable. Il faut le comprendre. Et peut-être qu'une des réponses à ça, ce serait peut-être un retour à la culture de son propre jardin, non? De plus s'éloigner du produit et le faire un peu plus à la petite échelle renouvelable et raisonnable. Évidemment, il y a ce savoir-là de ce qu'on mange en tout temps. On ne pense pas aux antibiotiques, aux maladies animales, on les enlève de l'équation. Mais il faut tout de même se rappeler qu'il y a des usages de pesticides et qu'on joue avec la génétique des produits. Il faut choisir et retracer ces produits même lorsqu'on ne consomme que des légumes, des fruits et les alentours. Certains aussi justifient leur végétarisme juste à cause du goût. Hein, ils n'aiment pas du tout le goût de la viande et n'en mangent pas de viande purement pour ces raisons-là. L'argumentaire aussi se base sur cette possibilité-là, comme je l'ai dit, à remplacer avec le végétal tous les apports nutritifs de la viande, avec quelques supplémentations qui sont très simples. Et il y a une belle variété de produits. Hein, lorsqu'on plonge dans le monde des légumes et des fruits, on en vient à utiliser des produits qu'on avait délaissés. Hein. On a tendance à se limiter aux patates et aux carottes et aux, à la laitue, à ces légumes-là connus et faciles d'approche lorsqu'on est plutôt dans la consommation de viande. Lorsqu'on tombe dans ces légumes et ces fruits-là, on voit qu'il y a une variété absolument incroyable. Et comme je l'ai dit, c'est facile de rendre n'importe quelle diète mauvaise pour la santé, avec quantité et choix d'aliments qu'on fait. Une autre de ces, des réfutations qu'on peut amener, c'est peut-être qu'il faut toujours cuisiner lorsqu'on est dans ces diètes-là. Hein. Requiert la cuisine à chaque jour, à tous les repas presque. Il n'y a pas de repas préparé, il n'y a pas de steak qu'on a juste à poser sur une plaque et à faire chauffer 4-5 minutes de chaque bord. Il y a de la préparation, il y a de la coupe, il y a de l'assemblage, il y a beaucoup d'étapes à faire. Il faut cuisiner, on n'a pas le choix, on ne peut pas l'éviter. C'est peut-être plus facile aussi de se laisser aller dans la malbouffe pour aller compenser l'excès santé, entre parenthèses. Hein. On risque peut-être pour certains de tomber dans la liqueur, les chips, l'alcool, etc., pour balancer, un peu avoir cette tricherie-là qui guette toujours. Mais il y a moins de complexité de manière lorsqu'on parle de manière gastronomique. Hein. Le végétarisme ou le végétalisme pur coupe une partie complète de produits qui sont méritants et délicieux, comme on l'a dit. Ça reste que c'est aussi peut-être compliqué pour manger à l'étranger lorsqu'on est absolument strict dans ce végétarisme et végétalisme-là. Hein, on va chez quelqu'un, puis ces gens-là ne mangent pas de viande, et puis on va se mettre à demander une salade, à demander qu'on ait quelque chose de particulier. Il y a peut-être un manque de flexibilité là, qu'on peut voir. Et les animaux bien traités et respectés par des fermiers organiques, ça existe déjà. Hein. C'est pas nouveau, il y en a. Il faut les trouver et les encourager si notre désir est de manger de la viande, évidemment. Et on peut trouver des initiatives qui sont intelligentes et morales. Lorsqu'on s'éloigne de cette viande-là et qu'on ne décide que de manger des légumes, des fruits et des noix, on évite peut-être le cycle naturel et l'acceptation qui est possible de servir de la nature avec calcul et bonne intention. Elle sert aussi techniquement nous à notre mort entièrement. Elle vient nous prendre nos nutriments et les redisperser dans la nature. Il y a un cycle qui est assez inévitable. Et je pense qu'il y a de la beauté dans ce processus-là de prendre une vie de manière humaine et en pleine conscience, en comprenant le geste, la gravité du geste qui est fait. Ça peut sembler barbare ou dépassé. Peut-être que ça sera dans le futur. Mais est-ce que ça l'est vraiment? C'est une question à se poser. Évidemment, lorsqu'on décide d'enlever la protéine animale, on est forcé de planifier les aliments consommés de manière extensive et de prendre des suppléments. C'est extrêmement important pour celui qui mange principalement végétarien de connaître ses apports caloriques pour s'assurer d'avoir une diète suffisante. Hein? Si l'apport calorique est balancé et intelligent, ça signifie par la bande qu'on a assez de protéines et vice-versa. Mais ça, évidemment, c'est la même chose pour une diète avec un peu de viande. Je pense que cette culture-là de comprendre ce qu'on mange et de respecter ce qu'on mange, de comprendre ses apports, son régime et sa diète personnelle, peu importe ce qu'on mange, ça me semble important, certainement. Crucial même. Donc, on arrive peut-être à une équation théorique, tranquillement, pas vite, qui indique qu'il faut construire principalement autour d'une diète végétarienne pour les apports de santé et d'autres raisons. Mais sans pour autant, peut-être, être forcé de se priver du produit animal par souci d'absolutisme. On comprend aussi qu'aucune des diètes courantes dans le contexte moderne, avec ces populations-là immenses, est soutenable à long terme. Ça, c'est une problématique qu'on aura à régler, d'autant plus que la population augmente encore. Il y a d'autres irrégularités que je vois et que j'aimerais peut-être démontrer, expliquer, proposer. J'ai l'impression qu'on a tendance peut-être des fois, pour certains, à exagérer la mort animale. Hein. Ça me semble être une communion avec la nature lorsque c'est fait dans des conditions intelligentes. Hein. On apprend à ne pas rien prendre pour acquis, même ce qu'on mange. Hein. Prendre une vie pour se soutenir et apprendre à ne rien gaspiller de ce qu'on a pris. Partager aussi. C'est des beaux apprentissages qu'on peut faire qui sont universels en se frottant avec la vie et la mort de l'animal. Confronter cette émotivité-là qu'on a face à la mort d'un autre animal, qui est normal. Il y a ce paradoxe-là aussi de ce qu'on est supposé être et ce qui est moral et possible, les possibilités de l'être humain de transformer sa nature, donc. Nous sommes de nature omnivore, mais rien ne nous empêche d'éviter la difficulté émotive. Rien ne nous empêche d'éviter la difficulté émotive de manger un animal qui a vécu. Hein. L'être humain et l'individu pensant peut définir sa propre philosophie objective. Il y a aussi cette hiérarchie-là de ce qu'on tue. Est-ce qu'on veut tuer l'animal conscient, l'animal plutôt inconscient? Il y a une ligne à tracer peut-être avec en examinant le cerveau de ces animaux-là. Certains animaux plus développés, comme les mammifères, ressentent douleur, ont des deuils, ressentent la tristesse, ont une mémoire, se souviennent de leurs liens sociaux et ont besoin de ça. Et d'autres ne ressentent peut-être que la douleur temporaire. Tuer un poisson versus tuer un porc qui est plus intelligent et même conscient qu'un chien, est-ce que c'est différent? C'est possible qu'il y ait une belle différence à faire. Il y aurait donc possiblement une gradation dans la gravité du geste et la moralité du geste, selon moi. Le poisson n'a pas de structure sociale établie, son cerveau n'a pas les composantes requises pour ces processus-là complexes que j'ai parlé, qu'on essaie d'éviter en tuant les animaux. Il n'y a pas de reconnaissance de son existence, évidemment. Les animaux purement dictés par l'instinct, qui se retrouvent souvent hors de l'ordre des mammifères, me semblent moins terribles à utiliser. Mais il y a aussi ce réflexe-là d'avoir une valorisation qui est biaisée entre les espèces, pour ne pas les manger. On a un tabou de manger chien, chat, cheval, parce qu'on les a adoptés plus comme animaux de compagnie avant la vache, le porc ou la chèvre. C'est une stupide classification qui est basée sur des critères biaisés, des critères visuels, pratiques, parce qu'on veut des animaux qui sont pratiques et compacts, qui peuvent vivre avec nous dans notre maison, qui sont placés dans le mythique commun et donc les gens ne veulent pas leur toucher. Ce sont tous des animaux avec une intelligence relativement développée, hein, que ce soit la vache ou le chat. La vache est même plus intelligente que le chat, mais il ne faut pas laisser son regard d'attachement émotif nous laisser croire que tuer ce chat-là est pire que tuer cette vache-là, qui est aussi parfaitement capable d'être un animal de compagnie, en théorie, hein. Parce que c'est des animaux qui sont intelligents, qui sont sociaux, qui sont beaux, qui aiment ça se faire toucher par l'être humain. Ce sont nos critères primaires. Mais comme je l'ai dit, on choisit le chat, on choisit le chien. Le chien, c'est peut-être différent parce qu'il y a vraiment un lien profond avec l'être humain, mais disons, on choisit le chat parce qu'il est petit, parce qu'il est propre. Mais le porc est tout aussi valable, c'est juste qu'il est un peu plus gros. Donc voilà, peut-être, cette valorisation biaisée-là est inadéquate pour justifier ce qu'on mange ou ce qu'on ne mange pas. C'est des phénomènes sociaux qui justifient cette subjectivation-là ridicule aussi. Passons au contexte différent en Chine, autrefois qui mangeait des chiens et des chats, par exemple. On se rend compte que ça rapporte beaucoup à notre contexte. Si on est prêt à manger une viande mammifère, ça qualifie à accepter toutes les autres par intégrité objectivisme, au moins dans la pensée, je crois. J'aimerais aussi faire une parenthèse sur la chasse, quoi que ce soit bien loin de moi. Parce que je pense que chasser, c'est voir ce que c'est réellement de prendre une vie animale, de le préparer, de l'attendre, de le tirer à un bon endroit pour ne pas le faire souffrir. Je pense qu'il y a un respect énorme, alors que certains pensent à l'inverse et à tort que les chasseurs sont des barbares. Ils sont souvent critiqués, mais ça me semble pertinent de rappeler que le chasseur est un de ceux qui entretient et comprend ce lien de vie et de mort-là, et tout le travail qui se tient derrière une pièce de viande. J'aimerais ça peut-être leur donner une fleur. Parce que souvent, les gens plus végétariens et végétaliens ont tendance à tirer des roches pour peut-être un peu rien, en fait. Là. Manque de compréhension, peut-être. Évidemment, on adore les produits fins et on triche par plaisir et hédonisme. Hein, parce que ces produits-là injectent de la vie. Parce que ces délicieuses viandes-là, ces délicieux grands fromages qui sont issus de l'industrie laitière, évidemment, et qui ont une qualité indéniable, qui sont saisissants. C'est difficile de leur dire non. Hein. On triche un peu parce qu'ils sont délicieux et que des gens ont dédié leur vie et leur passion à ça. Une autre incongruité, peut-être, vis-à-vis le fruit et le jus de fruit dans notre société. Lorsqu'on prend un fruit, on absorbe la fibre du fruit aussi. Et ça prend longtemps avant d'absorber tout le sucre qui est à l'intérieur. On doit mastiquer, on doit croquer, ça prend du temps. Et lorsqu'on transforme en jus de fruit, qui est une norme de boire du jus de fruit pratiquement ici, c'est aussi pire ou presque que de prendre une boisson gazeuse en termes de sucre. Je rappelle, le sucre, c'est ce qu'il faut regarder le plus près dans notre diète. Le jus boit en 3 secondes, ne donne pas de fibres, n'injecte en nous que le sucre. Mais on le boit le matin comme ça. Et on pense que c'est différent d'une liqueur parce que ça vient d'un fruit. Il faut se rappeler que ce n'est pas si différent que ça lorsqu'on transforme le fruit en jus de fruit. Ce qui nous reste, c'est du sucre et de l'eau, quelques vitamines. Et donc, on vient de faire le portrait des arguments de la viande, des arguments du végétarisme, de notre historique, de certains contextes qui nous amènent ici. J'aimerais peut-être proposer quelques alternatives, quelques pistes de solutions peut-être, pour la suite des choses. J'aimerais commencer en proposant l'acceptabilité relative des œufs, du poisson, de la plante et même des fruits de mer. Pour moi, la récolte d'œufs qui est là depuis longtemps dans notre société me semble légitime et morale dans les conditions humaines, et plus que la viande. Parce que le but premier, ce n'est pas de tuer comme pour la viande. On s'occupe de poules pendant une dizaine, quinzaine d'années. On leur donne sécurité et logement contre des œufs. On leur fait pas mal pendant cette transaction-là. On s'occupe d'eux. Donc, ça me semble plus justifiable. Le poisson, lui, comme on l'a dit, en fait, en plus d'être la protéine la plus recommandable, est une forme de vie peu développée qui ressent un petit peu la douleur primitive. Il n'y a pas de souffrance élevée d'un mammifère. Mais il faut peut-être se rappeler aussi de la pêche durable. Hein? Et c'est ce vidage-là qu'on fait des mers aussi. Une autre problématique, comme je l'ai dit, c'est pas soutenable encore. Les fruits de mer, eux, sont encore plus sous-développés. Les huîtres, les moules, les crevettes. Les crustacés sont aussi meilleurs pour la santé parce qu'ils ne sont pas gras, ils ne sont pas médicamentés. Et les plantes, évidemment, sont exceptionnelles pour la santé, n'ont aucun système nerveux, ne réagissent pas. On n'a même pas ce souci-là de tuer. On n'a que ce souci environnemental-là et cette soutenabilité-là, par contre, qu'il faut garder en tête. Voyons donc les diètes principales qui viennent en réponse à cet omnivorisme-là. On a le végétalisme, où on ne consomme aucun produit secondaire et dérivé des produits animaux, donc le miel, les œufs, ça peut même être le vin, parce que le vin peut être filtré par des œufs de poisson, etc. Ça peut aller extrêmement loin. On a le végétarisme, qui ne mange simplement pas de viande, mais qui mange œufs et lait. Et on a le végétarisme, donc ovo-lacto. Certains humains qui sont végétariens mangent des œufs et pas de lait. Certains végétariens mangent du lait, les produits laitiers, mais pas d'œufs. Et les autres sont végétariens complets. Pour moi, et selon beaucoup de recherches, la diète à base de plantes, c'est la réponse idéale. Et on parle de 90% de consommation de matière végétale pour 10% de matière animale et moins, si on veut. On peut aller encore plus bas. On peut accepter, si c'est désiré, la viande dans la diète, mais de manière calculée, intelligente et très restreinte. La hiérarchie de la protéine, poisson, qui est la surpêche, les métaux lourds, il y a des prix à payer, il ne faut pas l'oublier, même pour la protéine animale la plus noble. Hein? Parce qu'on a exagéré partout dans le domaine avec les années. Donc oui, on accepte la viande et oui, on choisit le poisson et les fruits de mer, mais ce n'est pas sans conséquences. Et c'est reconnu scientifiquement, évidemment, c'est un sujet énorme avec énormément de recherches, énormément de littérature scientifique. Et c'est reconnu tout de même comme étant de plus en plus la diète qui est recommandable pour la santé. Et ce n'est pas une diète qui est nouvelle, c'est une diète qui est, comme je l'ai dit, très très populaire dans l'est du globe. Comme alternative, il y a ces super aliments-là qu'on doit intégrer à notre quotidien. Tous les aliments les plus nutritifs et complets se trouvent chez les légumes, non seulement parce qu'ils contiennent moins de sucre que les fruits, en plus d'amener tous les éléments que la viande amène, le zinc, le fer, le magnésium, les acides aminés, sauf le B12 qu'on a déjà réglé, Les végétaux amènent une plénitude en plus d'antioxydants qui combattent directement les cancers, des vitamines importantes, de flavonoïdes qui viennent aider, de fibres, de protéines complexes et pures. Il y a énormément d'études, comme je l'ai dit, autour de la suprématie du végétal lorsqu'on parle du domaine de la santé. Mais qu'est-ce qu'on fait pour obtenir ce gras-là, ce 10%-là qu'on a besoin si on ne mange pas de viande ou si on ne veut pas en manger? Il y a toutes sortes de sources, évidemment. On peut manger des avocats, pois chiches, graines de chia, toutes sortes de réponses qui sont là. Plusieurs réponses. Et pour la protéine, il y a des noix, des haricots, lentilles, quinoa, riz brun, de l'avoine en gruau. Bon, encore une fois, les possibilités sont presque infinies. On a aussi accès, lorsqu'on ouvre nos yeux à ce moment-là, à des produits frais et purs. On retourne à ça. On paye un peu plus cher peut-être parce qu'on respecte le processus et les standards hauts et la soutenabilité qui est derrière, la philosophie qui est derrière, ça se paye. Mais ça nous apporte un équilibre, une flexibilité, une variété et un respect du produit qui est essentiel et dont on ne doit pas s'éloigner et dont je crois qu'on s'est éloigné avec le temps. Je parlais de supplémentation plutôt de vitamine B12. Mais il y a aussi des suppléments naturels que tout adulte devrait prendre, peu importe la diète, parce qu'ils sont en carence constante, ou presque. C'est très difficile d'aller chercher les valeurs nutritives essentielles. Il faudrait manger énormément de certaines nourritures contenant ces éléments-là pour en venir à en avoir assez. Donc, on les prend en pilule. Le magnésium en est un qu'on doit tous prendre. Et lui combat fatigue, stress, déprime, et il aide au sommeil et à l'anxiété. C'est un élément naturel, finalement, qui se retrouve dans les épinards et autres légumes verts. La vitamine D, comme j'ai dit, en est un autre, combat dépression, aide humeur, énergie, et aide le corps à simuler ce contact constant avec le soleil-là qui est naturel pour nous. On est supposé être tout le temps dehors, on ne l'est plus vraiment. Il faut avoir de la vitamine D constamment chaque jour. L'huile de poisson aussi, oméga-3. Même si on mange du poisson et qu'on obtient cet oméga-3, c'est un des aliments qu'il faudrait manger beaucoup plus pour en arriver au plafond de ce qu'on a besoin. Donc, on le prend en supplément. Et ça vient aider le maintien et la santé générale du cerveau. Et évidemment, le complexe des vitamines B, qui combine vitamine B1, B, etc., jusqu'à B12, pour ceux qui sont végétariens, végétaliens, parce que sinon, ils vont risquer d'avoir une fatigue chronique, des problèmes d'humeur, de stress. Donc, pour les végétariens, végétaliens, ceux qui prennent peu de viande, le complexe de vitamine B est essentiel. Il y a évidemment encore plus de suppléments possibles à faire pour aller, en regardant sa diète, à aller patcher, si on veut, nos manques. Mais voilà les universaux, peut-être, pour tous ceux qui prennent leur santé au sérieux. Faites vos recherches et allez voir les posologies. C'est des essentiels. Pour moi, ça fait une différence notoire. Évidemment, il faut aussi, vers le futur, éviter ce sucre-là le plus possible. Pensons aussi à la protéine insecte vers le futur, qui va peut-être être une réponse. Facile à reproduire, minuscule empreinte verte comparée aux viandes rouges, peu coûteux, très protéiné, plein de nutriments. Et c'est aussi l'espèce qui a la plus grande variété du règne animal. Il y a environ 1 million de différents types d'insectes. C'est appelé à s'étendre à l'ouest du globe qui traîne derrière l'est, qui a déjà mis ça dans sa diète pour pas très cher et facile à inclure. Pensons aussi à la protéine animale qui est faite en laboratoire. C'est encore en développement, mais c'est certainement envisageable dans le futur. Ça viendra peut-être faciliter la décision de plusieurs quant à la consommation de viande. Si on parvient à reproduire toutes les différentes fibres de viande, on est loin de là pour le moment, mais ça va peut-être amener une réponse extrêmement difficile à dénier. C'est une perspective à considérer, je pense. Donc, on a quelques objectifs à atteindre, évidemment. On doit diminuer considérablement la consommation de viande et différencier l'impact des différentes protéines animales. Il faut s'en tenir à ce 10%-là de protéines animales ou moins aussi. On veut peut-être retourner aux sources et à la terre, en venir à jardiner ou à ne manger que de la viande de chasse pour certains. C'est peut-être des réponses morales importantes. On veut être en santé aussi, avoir une vitalité durable. Et on veut tendre à ce que la consommation quotidienne soit bénéfique pour soi. On veut bien vivre et éviter la maladie, ça peut passer par la nourriture, comme on l'a vu. faut se rappeler aussi que la diète est un élément flexible. On peut essayer, changer, revenir sur nos pas, ajuster notre philosophie, tester. On n'est jamais pris dans un pattern qui s'impose. Et plus que ça même, alors que la science avance et apporte de nouvelles informations et de nouvelles variables, c'est normal de s'adapter pour parfaire notre formule. On veut peut-être aussi minimiser la douleur et la mort globalement d'animaux, alors que c'est plus nécessaire alors qu'on s'éloigne de cet état naturel qui nous forçait avant à prendre ce qui passait. Il y a une importance aussi d'apprendre à cuisiner et de maîtriser l'aliment brut pour le respecter et profiter de la saveur qu'offre cette variété incroyable d'aliments. On a un contrôle sur cette variété, on apprend, il y a un apprentissage qui est fait, une expérimentation au quotidien avec la nourriture, apprivoiser la fraîcheur et la qualité gastronomique et apprendre ce qu'est le produit, apprendre à le respecter vraiment. Ça me semble important. On doit aussi connaître les valeurs des produits, ce qu'ils nous apportent concrètement. On ne peut pas y passer à côté. Si on veut se construire une diète équilibrée, on doit le faire. Pour savoir quels sont les nutriments essentiels et leur quantité, pour façonner une diète idéale aussi, j'en ai nommé quelques-uns, il faut absolument s'informer à ce niveau-là. Il faut aussi respecter la viande lorsqu'on décide de la consommer et comprendre le processus qui est réel et sanglant derrière. Pour finir, on comprend qu'il ne faut pas structurer sa diète autour de la viande par souci de facilité. Parce qu'il y a de nombreux risques de santé, il y a de nombreux compromis moraux possibles à faire. Et il y a une contribution notoire de cette industrie-là à la dégradation de la planète. On comprend, on accepte aussi que le plant-based diet, la diète à base de plantes, est une meilleure option pour la santé, qui est plus variée, plus légère, et qui apporte plus de nutriments en plus de coûter moins cher. Les downsides reviennent sur le consommateur qui doit se prendre en main, comme je l'ai dit, prendre sa diète et ses achats au sérieux pour en venir à ce point-là. Mais ça ne veut pas dire qu'on est non plus obligé de rayer de la carte la viande parce qu'il y a ceux qui entretiennent des projets de fermes sensibles, respectueux, honnêtes. De délicieux produits moraux naissent de ces efforts-là. C'est une question de modération et d'être en bas de ce 10%-là pour la santé. On n'a pas besoin de vivre dans un monde froid et glacial où on s'interdit toutes ces fantaisies-là. On peut se rapprocher soi-même aussi de cet univers pour apprendre des bêtes et se donner de la flexibilité et la fantaisie gastronomique, comme je l'ai dit. On veut aussi favoriser la protéine animale sous-développée au niveau social pour minimiser les dégâts lorsqu'on décide de manger de la viande. On pense aux fruits de mer, poissons de pêche renouvelables sont peut-être des avenues intéressantes. Meilleur pour la santé en plus. Donc on préconise la diète basée sur les légumes et les grains, mais on n'abuse pas des fruits non plus et on maîtrise le langage alimentaire. C'est nécessaire. On comprend aussi qu'on doit prendre des suppléments pour s'assurer d'être complet. Pour être en santé, il faut prendre des suppléments. On n'a pas le choix. Parce que sinon, c'est trop difficile d'arriver à balancer, à obtenir tous les nutriments et tous les suppléments en quantité nécessaire. On veut favoriser aussi une santé et un contrôle sur une des facettes les plus primales et proches de nous qui soient. Et ce, en ayant à cœur le souci du détail, l'équilibre de la nature, le respect du vivant et une mentalité qui nous rapproche de nos territoires et de nos producteurs locaux. Être responsable de toutes les facettes de sa propre existence et rechercher l'équilibre, le contrôle et la vérité. C'est primordial selon moi. Et ceux sans passion pour l'art de vivre ne feront que manquer le bateau. Merci d'avoir été là sur ce sujet fascinant, extrêmement important selon moi. Informez-vous, il y a énormément de littérature, comme je l'ai dit. Faites vos recherches, trouvez ce qui vous convient. Construisez votre propre philosophie, ça serait ma recommandation la plus pressante. Pour le reste, les plateformes sont toujours les mêmes, iTunes, YouTube et Google Play. Et en ce qui me concerne, je vous souhaite encore une fois une bonne soirée, une bonne nuit. Et on se verra au prochain épisode.